Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le sweetcast optimiste. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'inaugure la série Café allongé, où j'aborde un concept en vidéo pour ensuite l'approfondir en podcast. Donc pour cette première expérimentation de format, j'ai choisi de vous parler de ce que j'appelle l'imaginaire intérieur. Si vous écoutez ce podcast sans regarder les vidéos de la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, je vais tout détailler ici, vous ne manquez rien. Et si vous avez été intrigué par cette notion depuis la vidéo que vous avez vue sur la chaîne, vous êtes venu écouter quelques détails supplémentaires sur le concept, eh bien, bienvenue par ici. Je trouve que le format podcast se prête beaucoup mieux à une explication un peu plus longue. Les bulles nomades durent en moyenne 20 à 30 minutes, ce qui me permet de développer ma pensée, ma réflexion, mes inspirations, etc. Et c'est de là que vient l'idée de ce concept de café allongé, où je préfère garder les vidéos dans les 10-15 minutes maximum et me laisser le loisir de vous parler de tout ça un petit peu plus en détail, en profondeur, dans le format podcast qui se prête davantage à des discussions un petit peu plus longues. Aujourd'hui, j'ai donc envie de vous présenter le concept d'imaginaire intérieur, qui est un terme que vous m'avez déjà entendu employer depuis l'année dernière si vous suivez mes contenus, et que j'ai envie de vous présenter plus en détail parce que c'est une notion en fait qui m'a énormément aidée et qui m'aide encore énormément dans mon propre voyage créatif, à la fois en tant qu'artiste, pour mieux me connaître en tant qu'être humain, et pour aller vers une vie plus alignée avec moi-même. Donc dans mon cas, vers ma vie d'artiste, mais ça peut être une vie alignée pour n'importe qui, quels que soient vos goûts, vos préférences, votre personnalité, là où vous emmène votre intuition finalement. Pour commencer, qu'est-ce que j'appelle l'imaginaire intérieur et d'où me vient cette idée? Ce que j'appelle l'imaginaire intérieur, c'est en gros tout ce qui se passe dans notre esprit. Donc nos pensées, mais aussi nos émotions, nos souvenirs, nos expériences, nos jugements sur ce qui se passe autour de nous, nos jugements sur les autres, sur nous-mêmes, nos connaissances, nos inspirations, nos aspirations aussi, nos rêves, tout ce qu'on est capable d'imaginer, comment on voit le futur, ce qui nous paraît possible ou pas, notre vision de nous-mêmes, donc notre identité, comment on se perçoit soi-même, comment on perçoit les autres, voilà, toutes ces choses-là sont regroupées dans ce que j'ai appelé l'imaginaire intérieur. Donc en gros, c'est notre perception du monde, c'est la signification qu'on lui donne, et ce sont les histoires qu'on se raconte, les histoires que le cerveau crée, que notre conscience subjective crée à partir du réel, de nos souvenirs, du passé, du présent et de ce qu'on projette, ce qu'on imagine dans le futur. Et ça contient aussi une part d'inconscient, l'imaginaire intérieur. Mais par exemple, des souvenirs enfouis, des pensées qu'on entretient depuis des décennies sans même s'en rendre réellement compte et qui, entre guillemets, se pensent toutes seules de manière automatique sans qu'on en prenne vraiment conscience, toutes ces choses-là. Alors évidemment, je n'ai pas inventé le concept, hein. En psychologie, on parle de cognition par exemple, Schopenhauer parlait de qualité de conscience, on parle aussi parfois d'écologie intérieure, même si ce concept englobe aussi le corps. Et l'imaginaire intérieur, en fait, englobe ces concepts-là de cognition, de qualité de conscience, etc. et plein d'autres encore, dont vous avez sûrement déjà entendu parler via d'autres termes, comme les croyances limitantes, le sens du possible, ce genre de choses. Et donc toutes ces choses-là, c'est des choses sur lesquelles j'ai lu au fil des années ou que j'ai écouté, entendu, des cours que j'ai suivis au fil des années, donc de philosophie, de psychologie positive, de développement personnel, ce genre de choses. Et j'ai pioché dedans, parmi tous ces concepts-là, ce qui m'était le plus utile. Et toutes ces choses-là, je les ai réunies sous le nom d'imaginaire intérieur. Déjà, pour ne pas rester que dans le mental, parce que par exemple, ce que les stoïciens appellent la qualité de conscience ou la perception du monde, c'est très mental, rationnel, de l'ordre de la pensée consciente et uniquement de la pensée consciente. Alors que là, j'ai souhaité ne pas rester que dans le mental et l'esprit et les pensées et le psychologique. Je voulais aussi intégrer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est le sensible, l'inconscient, l'intuition, l'inspiration, les préférences, les aspirations, tout ce qui fait de nous des êtres humains finalement. Et ce sont des facettes en fait beaucoup plus riches, notre humanité est beaucoup plus riche que juste notre mental. Nous ne sommes pas que des têtes pensantes, même si notre capacité à raisonner, à penser et à analyser est importante et elle a de la valeur, mais ce n'est pas tout ce qui compte dans notre imaginaire intérieur, et je voulais vraiment penser à une sorte d'écosystème intérieur qui inclut le mental, mais aussi l'esprit, l'âme, la sensibilité, le corps, etc. En tout cas, les sensations physiques, toutes ces choses-là. Alors, pourquoi j'ai choisi le mot imaginaire intérieur? J'aurais pu choisir un autre mot, on peut parler de monde intérieur, de vie intérieure, d'écologie intérieure. Et d'ailleurs, je parle aussi de jardin intérieur pour filer une métaphore entre notre imaginaire intérieur qui serait un terrain fertile sur lequel pousseraient au fil de notre vie les pensées, les idées, les émotions, les souvenirs, comme autant de plantes uniques. Et j'aime bien cette métaphore du jardin intérieur parce que je trouve que ça rend le concept plus concret, en fait, ça nous permet d'imager le concept. Mais au final, j'ai choisi le mot imaginaire, donc imaginaire intérieur, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en tant qu'artiste et autrice de fiction, je trouvais intéressant de penser à notre vision du monde sous l'angle des histoires qu'on se raconte, de l'imagination qu'on déploie pour interpréter le monde qui nous entoure, pour interpréter nos souvenirs et notre image du futur. En fait, notre cerveau, c'est une incroyable machine à histoire. On a besoin de donner du sens aux choses. Et du coup, on va sélectionner des faits, des souvenirs, des stimuli, etc. qui vont venir coller à l'histoire qu'on se raconte. Et on a pas mal de biais cognitifs, si vous voulez aller voir un peu plus, se plonger là-dedans plus en détail. Par exemple, le biais de confirmation, qui consiste à justement ne sélectionner que les données, donc les sensations, les souvenirs, les pensées, les événements, etc., qui viennent confirmer notre histoire, pouvoir renforcer l'histoire qu'on se raconte, et on va mettre de côté toutes les choses qui sont incohérentes avec cette histoire qu'on se raconte. Pourquoi ? Parce que le cerveau a besoin de cohérence, le cerveau a besoin de sens, le cerveau a besoin d'organiser toutes ces stimuli, en fait, ces souvenirs, ces sensations, ces émotions, ces pensées, etc. On a besoin de l'organiser dans un tout cohérent qui a du sens. Et je trouve que c'est quelque chose de magnifique, en fait, cette capacité qu'a notre cerveau à raconter des histoires. Et d'un côté, c'est magnifique, et d'un autre côté, je trouve que c'est important d'en prendre conscience de ça, parce que autour d'une même réalité, d'un même souvenir, d'une même expérience de vie, si c'est une histoire subjective qu'on se raconte et non pas la réalité objective, ça veut dire qu'on reprend le contrôle, y compris sur notre passé, nos souvenirs qui sont pourtant déjà révolus, sur lesquels on ne peut plus agir concrètement. On peut se le réapproprier tout de même en choisissant les histoires qu'on décide de se raconter. Et c'est là qu'on entre dans le domaine de l'intention, de venir mettre de l'intention dans notre imaginaire intérieur. Donc tout ce processus lié à la subjectivité du cerveau, le processus qui consiste à s'inventer des histoires, c'est le même processus que quand on invente des histoires de fiction. C'est pour ça que ça me parle en tant qu'autrice de fiction. Parce que tout part d'inspiration, d'influence, de croyance, de valeur, tout part de notre expérience du monde, de notre terroir quelque part, notre terroir intérieur. Et donc ça concerne à la fois la part consciente, mais aussi le côté inconscient qui travaille à notre insu. En tant qu'autrice de fiction, quand je relis les histoires, parce que vous savez, enfin je sais pas si vous savez, mais le processus d'écriture d'une histoire de fiction, en tout cas pour moi, c'est que je vais écrire un premier brouillon de l'histoire complète, je vais le laisser reposer un petit peu, puis je vais revenir dessus plus tard pour le corriger, le faire relire à d'autres personnes pour avoir une vue extérieure sur mon histoire. Et le fait de l'avoir laissé reposer puis de le relire à froid, ça me permet de prendre conscience de choses dont je n'avais absolument pas conscience à l'écriture. Il y a vraiment une part de notre terroir, entre guillemets, de notre vision du monde, de notre perception des choses, de nos souvenirs, de nos expériences, qui est complètement inconsciente et qui s'exprime de manière inconsciente à travers les histoires qu'on se raconte. Et par exemple, le roman qui est actuellement en soumission éditoriale, qui s'appelle Les Allumés de la Sphère, qui est de l'urban fantasy pour adultes, un peu comme Les Rivières de Londres de Ben Aronovitch, un petit peu comme Les Néphilim de Fabien Clavel, ce genre de truc-là. Donc ça se passe à Paris, avec une nana qui bosse dans une agence de pub et qui découvre un petit peu par hasard le monde surnaturel qui est autour de nous mais dont on n'a pas conscience. Et en relisant cette histoire-là, l'histoire de cette femme et de ses compagnons, je me suis rendu compte que j'abordais le thème du burn-out dans cette histoire en faisant une sorte de parallèle métaphorique entre sa découverte du monde surnaturel et ma découverte quand j'ai fait mon burn-out de tout ce qui est en dehors du salariat, en fait, de tout ce qui est le milieu artistique, le milieu entrepreneurial. Et j'ai carrément, voilà, fait une métaphore de tous ces milieux dont j'avais aucune conscience quand j'étais sur les rails du salariat, du CDI, du machin, et que j'ai commencé à découvrir après avoir quitté mon emploi. Et donc ce personnage principal qui s'appelle Clara passe par cette phase-là où elle découvre le surnaturel, où elle est en plein burn-out en fait, et où elle préfère les difficultés du monde surnaturel plutôt que de retourner bosser dans son agence de pub. Et ça, mais j'ai pris conscience de ce thème-là après avoir écrit tout le roman, quand je l'ai relu. Donc vous voyez, il y a un côté inconscient qui vient parler dans ce qu'on crée, là je vous donne un exemple en tant qu'artiste qui crée des histoires, mais cette partie inconsciente, elle parle aussi dans les histoires qu'on se raconte à propos de notre propre vie, ce qu'on peut appeler de l'autofiction, un petit peu si on veut, qui sont les histoires que le cerveau se raconte à propos de nous-mêmes, de notre propre vie et de la réalité. Et en fait, cette approche d'imaginaire intérieur m'aide à visualiser notre conscience, notre inconscient, tout ce que ça contient, et à mettre des mots compréhensibles sur ce que je vis. Par exemple, quand on parle de s'approprier une croyance qui ne nous appartient pas, par exemple, des choses qui nous ont été répétées pendant notre enfance, ce que Don Miguel Ruiz appelle les accords dans son bouquin Les 4 accords Toltec, ce que les coachs en développement personnel appellent les croyances limitantes, etc. Moi, c'est ce que j'appelle les graines qui sont plantées dans notre jardin intérieur par d'autres personnes. Et j'imagine ces pensées extérieures, un peu comme le film Inception, vous savez, on vient planter une graine dans l'inconscient de la personne, si vous avez vu le film. Par exemple, la prof de maths qui m'a dit quand j'avais 6 ans, mais Fleury, t'es nulle en maths, c'est hypothétique, hein, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est pour vous donner un exemple. Et c'est une graine qui va être plantée et ça va devenir une plante à l'âge adulte qui est de toute façon, je suis pas bon avec les chiffres. Et cette idée de graine qui pousse dans ma tête, c'est vachement plus concret pour moi en fait. Donc ça me permet de toute cette. Ce concept imaginaire intérieur, jardin intérieur, ça me permet de mettre du concret sur tout ça. Et c'est ce qui me permet de faire du lien finalement entre des concepts similaires que je lis via plein de sources différentes et qui portent des noms différents. Et ça me permet d'intégrer toutes ces inspirations dans mon propre imaginaire intérieur, de créer ma propre cohérence intérieure dans ma vision du monde. Ça donne de la cohérence à tout ça. Et puis, vu que j'ai choisi en tant qu'artiste de vous partager ces explorations créatives pour vous aider si vous avez envie d'explorer tout ça à votre tour, ça me permet aussi de vous proposer des outils qui sont très clair et très cohérent parce que j'ai rassemblé plein d'idées différentes et que je me les suis appropriées quelque part dans un cadre auquel j'ai donné une cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? Une autre raison pour laquelle j'ai opté pour le terme d'imaginaire intérieur, c'est que c'est la source de notre créativité, de notre imagination. Et le mot imaginaire, du coup, renvoie à tout ce côté créatif. Quelque part, c'était un moyen de faire un clin d'œil à la part créative en chacun de nous. Parce que nous sommes toutes et tous créatifs à notre manière. Je vous invite à réécouter la Bulle Nomade 91, je crois que c'est la 91 sur le Sparketype si ça vous intéresse, qui est un test de mission de vie, entre guillemets, ou de raison d'être, d'ikigai, qu'a créé l'américain Jonathan Fields, et qui donne 10 profils différents de la manière dont on crée en fait de la valeur en tant qu'être humain, de la manière dont on contribue en tant qu'être humain. Et donc ça passe par la créativité pure comme moi ce que je fais en tant qu'artiste, mais il y a 9 autres profils en fait. Le fait de résoudre des problèmes de manière créative, le fait d'enseigner, le fait de transmettre et d'accompagner des gens, le fait de militer en fait et de soutenir les causes d'autres personnes, c'est aussi une manière de contribuer, le fait de rendre service à d'autres. Voilà, il y a 10 manières différentes de créer et de contribuer et d'être créatif en tant qu'être humain qui ne sont pas forcément liées au fait de créer de l'art en soi, parce que tout le monde n'est pas artiste, tout le monde n'a pas la fibre artistique, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai choisi ce terme d'imaginaire intérieur en guise de rappel que cet imaginaire intérieur, tout ce monde intérieur, c'est aussi un chaudron finalement d'idées, de pensées, d'inspirations qu'on va nourrir avec notre curiosité, avec des influences qu'on peut aller chercher, des connaissances qu'on peut aller acquérir, des expériences concrètes qu'on peut faire en passant à l'action, qui viennent enrichir cet imaginaire intérieur. C'est comme si c'était un peu des nouvelles graines, et puis de l'engrais, de la lumière, de l'eau pour nos plantes, pour qu'elles poussent. Et après, ces nouvelles plantes qui poussent à partir de ça va être nos idées créatives, notre patte singulière, notre voix VOIX singulière, et notre manière unique de contribuer en tant qu'être humain à l'écosystème. Voilà, du coup, je trouve que de manière générale, c'est un concept que je trouve très utile pour comprendre comment fonctionne notre cerveau qui est si complexe, comment fonctionne notre subjectivité et notre voix VOIX. Parce que quand on comprend mieux, qu'on arrive mieux à se figurer comment tout ça fonctionne, et bien c'est plus facile de venir mettre de l'intention dans tout ça, de venir mettre un petit peu une impulsion, de faire des choix et de choisir délibérément certaines choses pour cultiver notre imaginaire intérieur. Du coup, j'ai prévu de partager avec vous, à mesure que je les pratique moi-même, des usages concrets de comment je me sers de ce concept d'imaginaire intérieur dans mon quotidien. Donc il y a des pratiques créatives qui vont venir au fil des mois sur mes différents canaux. Et je vous invite à vous abonner à la newsletter, la lettre créative et optimiste du dimanche matin sur floriteller.com/lettre si vous souhaitez rester informé de ce que je vais sortir, que ce soit des ressources gratuites ou des créations sur la boutique. C'est le meilleur moyen en fait, si vous êtes intéressé par ce que je fais, de rester informé sur ce que je fais sans être soumis à l'aléa des algorithmes. Si vous me suivez sur les différents canaux des réseaux commerciaux, peut-être que vous n'allez pas voir mes publications. Et du coup, si vous recevez la lettre tous les dimanches matins, il y a un petit encart à la fin où je vous explique ce que j'ai sorti cette semaine. Donc c'est la meilleure manière de rester informé de ce que je fais. Mais en attendant de sortir toutes ces choses-là, je vous propose de clôturer ce podcast sur quelques idées concrètes de ce que vous pouvez faire dès maintenant, de ce que je fais moi au quotidien autour de cette idée d'imaginaire intérieur. Avant d'aller plus loin, un petit rappel. Je produis ce podcast sur mon temps et mes deniers personnels et j'aimerais qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le prix d'un café sur patreon.com/floriteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui le font déjà. Quelques idées concrètes de comment nous pouvons utiliser notre imaginaire intérieur pour se connaître, pour entamer une exploration intérieure et pour cultiver notre créativité. Une première chose, une première idée que je pratique très régulièrement, c'est de faire une sorte d'audit de l'état de notre imaginaire intérieur sur un sujet en particulier. C'est-à-dire faire la démarche consciente de venir prendre conscience de l'histoire qu'on se raconte actuellement sur un sujet précis. Donc, notre vision du monde, de la vie, de nous-mêmes, de ce qui est possible, de ce qui nous est possible à propos d'un sujet précis. Et en fait, l'idée, c'est de mettre cette histoire-là à notre conscience pour pouvoir ensuite voir si on a envie de continuer à se raconter cette histoire, si on a envie de continuer à y croire. Si c'est une histoire qui nous sert, qui nous aide à avancer, ou si c'est une histoire qui nous met des bâtons dans les roues, auquel cas on peut, derrière, essayer de voir de quelle manière on peut venir changer cette histoire pour se raconter une autre histoire à partir de la même réalité, mais qui soit plus constructive, plus optimiste, plus positive, ou en tout cas plus alignée avec nos valeurs, parce qu'on n'a parfois pas envie de voir les choses de manière positive en fonction de la situation, mais en tout cas pour avoir une histoire qui nous appartient à nous, au lieu de continuer à se raconter une histoire qui nous a été léguée par d'autres. Du coup voilà, je trouve que c'est hyper important comme première étape quand on veut explorer certains aspects de notre vie, de conscientiser les histoires qu'on se raconte aujourd'hui, de venir constater ce qui se trouve dans notre imaginaire intérieur à l'heure actuelle. C'est comme si vous alliez dans votre jardin intérieur avec, vous savez, l'application Seek, S-E-E-K, qui permet, d'ailleurs je vous la conseille cette appli si ça vous intéresse, c'est une application de smartphone où vous prenez des végétaux en photo, genre des plantes au parc, en forêt ou quoi, et l'application vous dit ce que c'est comme plante, ce que c'est comme espèce et tout. Et ben, l'audit de l'imaginaire intérieur, c'est un peu ça. C'est comme si vous vous baladiez avec votre application virtuelle d'identification des plantes qui poussent dans votre jardin intérieur et de constater quelles sont les plantes qui sont là, comment elles s'appellent, pourquoi elles sont là, etc. etc. Donc, comment est-ce qu'on fait cet audit concrètement ? Moi, ce que j'aime faire, c'est une session de journal orienté pour déterrer toutes mes pensées, mes croyances, mes émotions, mes souvenirs, mes expériences, mon sens du possible ou de l'impossible autour du thème en question. Et ça me permet de constater ce qui est là avant de décider quelle nouvelle graine j'ai envie de planter, quelle plante j'ai envie d'arracher, etc. Donc par exemple, j'ai fait l'exercice récemment en tant qu'artiste sur la notion de l'argent et de vendre des créations artistiques, de demander de l'argent en échange de créations artistiques, de proposer un prix juste. Voilà, tout cet imaginaire intérieur autour de ça. Et je me suis fait une énorme session de journal orienté autour de quel est mon rapport à l'argent en tant qu'artiste actuellement et quel rapport à l'argent ai-je envie de cultiver en tant qu'artiste qui soit aligné avec mes valeurs en fait. Voilà, ça c'est un exemple de manière concrète. Et ce travail-là d'audit de mon imaginaire intérieur autour de l'argent en tant qu'artiste, ça m'a aidé à gagner une clarté énorme sur mes choix professionnels en fait, en tant qu'artiste. C'est-à-dire ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de développer, à quel prix, pourquoi, etc. Parce que du coup, j'ai repris possession de toutes les croyances que j'avais autour de tout ça et de ce que j'ai envie de croire et ce que j'ai envie d'insuffler comme énergie et de ce que j'ai envie de transmettre comme valeur en fait dans ma manière d'être et dans mes choix de vie. Une autre pratique concrète autour de l'imaginaire intérieur, c'est quand on identifie une pensée ou une émotion qui revient en boucle et qui nous empêche d'avancer. Donc par exemple, je vous ai souvent parlé de la pratique du parle-singe que je fais tous les matins où en gros j'écris une page A4 ou deux pages A4 de ce qui me trotte dans la tête en ce moment. Et peut-être que je vais prendre conscience d'une pensée ou d'une émotion, d'une croyance, d'une phrase qui revient en boucle dans ma vie et qui me pose problème en fait. Et donc ça, vous pouvez la voir revenir comme ça en faisant du journal ou ce genre de pratique-là. Vous pouvez vous rendre compte que vous parlez à vous-même dans votre tête en utilisant souvent certains mots, ou quand vous discutez avec vos proches et que vous racontez comment ça va, ce qui vous est arrivé, vous vous rendez compte qu'il y a des termes qui reviennent très régulièrement, ou alors si vous êtes suivi en psychothérapie ou si vous êtes suivi en coaching et que vous discutez avec votre psy ou votre coach, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des pensées qui reviennent. Et par exemple, récemment, j'ai identifié que j'avais peur de gagner en audience sur le podcast, sur mon blog, sur les réseaux commerciaux, etc. parce que je ne me croyais pas capable de gérer l'attention que ça crée. C'est-à-dire que plus vous avez une grosse audience, plus, bah, mathématiquement, plus il y a de gens qui découvrent et qui consomment le contenu. Et mathématiquement, plus il y a de messages et d'interactions, et en proportion, plus il y a de messages et d'interactions qui sont négative. Et en fait, le concept d'imaginaire intérieur m'a permis de venir isoler cette peur, prendre conscience de cette peur, cette plante qui a poussé dans mon jardin intérieur, la plante de je ne suis pas capable de gérer une audience plus grande que celle que j'ai aujourd'hui, et de venir me demander qui l'a plantée là, pourquoi est-ce que je crois ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Quel est l'engrais, l'eau et la lumière qui vient nourrir cette plante? D'où vient cette pensée? Pourquoi est-ce que je continue à la croire? Quelle est l'histoire que je me raconte autour de cette pensée? Parce que là, c'est une pensée identitaire. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de gérer les commentaires négatifs? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est l'imaginaire que j'ai inventé autour de cette pensée et que je crois et à laquelle je me suis identifiée? Donc en l'occurrence, avec cet exemple, ça m'a amené à réfléchir à ma vision de moi-même et de mes capacités. Quelle est l'histoire que je me raconte à propos de moi-même qui m'amène à penser que je serais incapable de gérer l'attention et les messages désagréables? Enfin, troisième élément, l'imaginaire intérieur me permet aussi de définir ma propre philosophie de vie avec intention. Comme je vous expliquais, une fois qu'on prend conscience de ce qui pousse dans notre jardin intérieur, on peut venir mettre de l'intention dedans. On peut venir se questionner en fait sur nos valeurs, sur la vision du monde qu'on souhaite cultiver à partir de maintenant, et de voir si l'imaginaire intérieur que l'on a, qui finalement est l'énergie initiale à partir de laquelle on construit notre vie en fait, si c'est en accord avec nos valeurs, si on est aligné avec les plantes qu'il y a dans ce jardin-là, et si ça nous amène vers une vie alignée, si ça nous amène vers ce qu'on veut construire en fait en tant qu'être humain. Donc du coup, là, c'est un peu l'idée où on passe à l'action un petit peu, on met de l'intention dans tout ça et on va décider ce qu'on a envie de continuer à cultiver, les plantes qu'on veut arracher, les nouvelles graines qu'on souhaite planter. Et concrètement, ça va être des questions que je me pose. Alors ça, c'est mes introspections annuelles ou trimestrielles, vous voyez, où je me demande quelles sont les valeurs que je souhaite cultiver, quelle est l'histoire que je souhaite me raconter autour d'un événement ou d'une zone précise de ma vie. Par exemple, quelle histoire je souhaite me raconter autour du fait que je suis une artiste indépendante. Quelles sont mes aspirations? Qu'est-ce qui me paraît possible pour ou pas pour moi aujourd'hui et pourquoi? En fait, c'est le moment où je reprends le contrôle sur ma propre subjectivité, puisque la réalité objective ne nous est pas accessible. On a le filtre du cerveau qui vient donner du sens à tout ça et qui vient raconter une histoire, qu'on le veuille ou non. Et bien, c'est le moment où on va choisir l'histoire qu'on se raconte. Et on devient les créateurs et les créatrices de notre propre imaginaire intérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En tout cas, moi, j'adore ça. Voilà, donc ça, c'est des pistes globales qui sont... qui sont assez abstraites, assez globales pour vous donner une idée de ce que j'entends par tout ça. Mais on en reparlera dans les semaines, dans les mois à venir, sous l'angle de l'exploration de soi et sous l'angle du développement de notre créativité et de l'utilisation de pratiques créatives. Vous pouvez aussi aller voir, donc en même temps que ce podcast, il y a la vidéo Café Allongé associée qui est sortie sur la chaîne YouTube. Et j'ai aussi sorti un article sur le blog, donc floritaylor.com/imaginaire-intérieur, où c'est vraiment un article ressource où je vous résume un petit peu tout ce que je vous ai dit là, ce que j'entends par imaginaire intérieur, ce que ça contient, les étapes d'exploration de l'imaginaire intérieur, etc. C'est le type de truc que vous pouvez mettre en favori ou exporter en PDF ou que sais-je, pour garder sous le coude cette notion d'imaginaire intérieur, si jamais ça vous intéresse, vous souhaitez l'utiliser, et si jamais j'en reparle, enfin quand j'en reparlerai dans le futur, si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur de quoi je parle. Et bien sûr, pour les mécènes Voyageurs et Plus, vous avez le script de ce podcast-là, également dans votre espace sur patreon.com/floritaylor. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept d'imaginaire intérieur, ce qui vous inspire. Vous pouvez laisser un commentaire sous les notes de l'émission sur floritaylor.com/bn147 ou vous pouvez me contacter en privé via la page floritaylor.com/contact. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette bulle nomade jusqu'au bout et je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !